Rubrique Mon corps, ma vie. Tout ce qu'il faut savoir sur la bêta-HCG, eh bien, c'est avec le docteur Hicham Ben Abbas Tarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour, toujours un plaisir.
Merci d'être avec nous. Donc, on parle de la bêta-HCG aujourd'hui. On va commencer par rappeler à nos auditeurs la définition scientifique de cette hormone, docteur.
Ben, c'est une hormone de la grossesse. En fait, c'est la fraction bêta de l'HCG qui est une hormone. Donc, sécrétée par le corps jeune, par le corps jeune, c'est-à-dire la structure post-ovulation de l'ovaire, mm-hmm. et qui va en fait, elle est synthétisée par le trophoblaste, c'est-à-dire par les premières cellules du bébé. Et elle donne l'information au corps jeune, écoute, il y a grossesse, je suis là, il ne faut pas que le corps jeune meure, il ne faut pas que les hormones œstrogènes et progestérone meurent, qui provoqueraient donc la survenue des règles.
Elle est produite par le placenta.
Elle est produite par ce qui va devenir la placenta par la suite, c'est les cellules trophoblastiques. C'est les premières cellules de l'extérieur de l'œuf. Et donc, elles sont très importantes parce que c'est elles qui donnent le signal qu'il y a grossesse et que donc, qui font que l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles, le retard de règles.
Et ça arrive, quand est-ce qu'on commence à produire véritablement cette hormone? Dès le sixième jour? Après la conception?
Elle est sécrétée dans le sang dès le dixième jour post-fécondation. Elle est sécrétée dès le début, mais si vous voulez, il faut encore pouvoir la détecter. Elle est détectée dès le dixième jour dans le sang, après le retard de règles, par les tests de grossesse urinaires.
D'accord. Le dosage, on parlait de ce sujet avec vous en off la semaine dernière, Hicham Ben Abbas Tarji, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien, et on se disait que vous nous disiez que le dosage du bêta-HCG, je vais y arriver aujourd'hui, ne permet pas de dater le début de la grossesse. On peut revenir sur ce point.
Mais justement, c'est un point très important. Les bêta-HCG, la présence de bêta-HCG veut tout simplement dire qu'il y a un tissu trophoblastique, c'est-à-dire du placenta, qui sécrète donc ces bêta-HCG. À 99%, donc c'est la grossesse. Dans 1% des cas, ça peut être des tumeurs du placenta. C'est autre chose, d'accord, mais c'est, ou bien dans certains cancers, ce qu'on appelle des syndromes paranéoplasiques. Mais dans 99% des cas, ou 99,9%, ça veut dire qu'il y a grossesse. Maintenant, ça ne veut pas dire où est cette grossesse. Est-ce qu'elle est dans l'utérus? Est-ce qu'elle n'est pas en dehors? Ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. Mm-hmm. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire que cette grossesse est évolutive. Si vous faites une fausse couche,
d'accord,
même si la grossesse est arrêtée, les bêta-HCG sont encore présents. Et donc, c'est un deuxième examen qu'on a besoin, c'est-à-dire une cinétique, c'est-à-dire l'évolution de ces bêta-HCG. D'accord? Donc, je préconise à l'arrière, on fait un test aujourd'hui et on le refait 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce que dans une grossesse...
Moi, j'allais vous demander quand le faire.
On le fait. Alors, pour une grossesse normale, ça ne sert pas à grand-chose de faire ce qu'on appelle les bêta-HCG sanguins. D'accord?
Très bien.
Dans le sang. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette valeur, d'être valeur quantitative. D'accord? Pour une grossesse normale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aménorrhée, il y a les signes sympathiques de grossesse qui apparaissent. Et on va faire une échographie qui va donc affirmer cette grossesse. Mais on peut faire un test urinaire, c'est très bien, c'est suffisant pour une grossesse normale. Maintenant, quand est-ce qu'on demande des bêta-HCG sanguins? Quand justement on suspecte une grossesse anormale. D'accord? Parce que le taux normal de bêta-HCG doit doubler.
Comment vous suspectez ça?
Mais justement, attendez, le taux normal doit doubler. D'accord? C'est-à-dire j'ai un taux de X, n'importe quelle valeur, j'ai 100 aujourd'hui, et ben, dans une grossesse normale, il doit faire environ 1,5 à 2,5. C'est-à-dire que dans 2 jours, si mon trophoblast est normal, je dois avoir entre 150 et 250, disons 200. Okay? Donc cette bonne évolution me dit que la grossesse évolue bien. Maintenant, si j'ai 100 aujourd'hui et qu'après-demain j'ai 80, ça veut dire que cette grossesse, le trophoblast n'est pas bon. C'est-à-dire ça me signe déjà la grossesse est arrêtée. Alors, il y a d'autres moments où on va la demander. Par exemple, quand on suspecte une grossesse extra-utérine. En début de grossesse, à 4 semaines, 5 semaines, quand c'est tout petit, quand il y a à peine une semaine de retard, eh ben vous venez, il se peut que je ne vois pas le sac. D'accord? Je vais, à ce moment-là, demander des bêta-HCG pour m'assurer qu'il y a grossesse ou pas. Maintenant, encore une fois, je dis à 4, 5 semaines, ce sac, il peut ne pas être, comme il peut être tout petit. Un tout petit sac sans encore embryon avec l'activité cardiaque qu'on va voir, parce que c'est trop petit. Comment savoir comment ça évolue? Eh ben, je peux redemander, après 48 heures, un taux. S'il évolue, ça veut dire que sur les 48 heures, la grossesse évolue. Mieux. Vous venez, vous avez 6 semaines d'aménorrhée ou 7 semaines d'aménorrhée. Vous venez, je fais une échographie, je trouve rien dans l'utérus. Mmh. Alors qu'à un mois et demi, je dois voir quelque chose. D'accord? Pourquoi je ne vois rien? Soit il n'y a pas de grossesse, soit elle est toute petite, soit à la rigueur, ça peut être une grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que je ne la vois pas dans l'utérus, elle est en dehors. C'est une possibilité. Comment je vais voir? Je vais voir les bêta CG. Et il y a un taux discriminant, c'est-à-dire que quand on a plus de 1500 unités de bêta ACG, on doit voir à ce moment-là quelque chose, un sac en intra-utérin. Si on ne le voit pas, eh ben c'est une forte suspicion de grossesse extra-utérine et on peut être amené à faire d'autres examens, voire une célioscopie pour traiter la grossesse extra-utérine plus tôt. Mmh.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de Hicham Ben Abbas, gynécologue obstétricien. On parle de l'hormone bêta HCG, le dosage. Ce dosage effectué lors d'un test de grossesse, c'est le dosage donc de la bêta HCG. Quand il est prescrit par le médecin, juste entre parenthèses, docteur, il est remboursé quand il est
prescrit. Je pense, oui, tout à fait.
Il est remboursé.
C'est le test urinaire qui se fait en pharmacie.
Donc, prise de sang prescrite par le médecin.
Après, ce n'est pas forcément prescrit par le médecin. Hein.
Non, mais je parle justement spécifiquement de celle qui est prescrite par le médecin. Est-ce qu'il est remboursé juste
entre parenthèses ? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, c'est un examen biologique, oui. Il n'y a pas de raison qu'il soit
remboursé. Après, si une femme veut le faire... pour la prise de sang toujours, si une femme veut le faire.
Veut le faire.
Généralement, après un test de grossesse, voilà, ça peut être... test de grossesse peut être positif, mais voilà, souvent on dit de faire une prise de sang pour vraiment confirmer la chose.
Mais encore une fois, je le dis, quel test de grossesse? Est-ce que c'est un test de grossesse urinaire à la pharmacie ou est-ce que c'est un test de grossesse sanguin? D'accord?
Non, je parle de la prise de sang, du test sanguin. Donc, quand il est prescrit par le médecin, est-ce qu'il est remboursé?
Normalement, oui.
Très bien. Lorsqu'une femme décide, justement après avoir fait un test urinaire, de faire ce test sanguin derrière, est-ce qu'elle peut se faire rembourser?
Ben non, parce qu'il n'y a pas de prescription médicale.
Il n'y a pas de prescription. On est d'accord là-dessus. Est-ce que sur le test sanguin, pour revenir au test sanguin, il faut être à jeun?
Non.
Très bien.
Alors, mais je veux juste revenir sur quelque chose. Le test à jeun, le test sanguin, on n'a pas forcément besoin de le faire. On a même le test urinaire, les femmes le font souvent parce qu'elles sont contentes, elles sont pressées dès qu'elles ont leur retard de
règles. Et après, comme disait Donia, pour être un peu plus sûre, elles font la prise de sang.
Moi, je dirais, ce n'est pas la peine d'aller faire une prise de sang dans une grossesse normale. Ce n'est pas la peine qu'elle aille chez son gynécologue ou chez son médecin généraliste. L'essentiel, c'est de faire une échographie endovaginale par le vagin pour nous assurer, parce que c'est plus précis, on verra plus un petit sac.
D'accord. Peu importe combien de temps...
Dès le retard de règles. Généralement, on commence on va consulter parce qu'on n'a pas eu nos règles. Mmh. C'est ça qui explique le sujet. Mmh. Et donc, on s'inquiète, pourquoi on n'a pas nos règles? Eh bien, on fait un test de grossesse et on découvre qu'il est positif. On est contente ou pas contente. Mais l'essentiel, c'est qu'on l'a fait à ce moment-là. Il faut aller consulter, dit un gynécologue ou un médecin généraliste, pour faire une échographie et s'assurer que cette grossesse est bien là et que cette grossesse évolue.
Mais c'est plus un gynécologue qui va pouvoir aiguiller sa patiente.
Après, généralement, l'étape aussi de la prise de sang sanguine de bêta HCG, c'est aussi pour une prise de conscience, pour vraiment une confirmation. Et en même temps, on peut après ensuite aller voir le gynécologue en ayant un taux. Et ça permet aussi de peut-être dater le début d'une grossesse, etc. Je trouve que c'est un outil indispensable peut-être à avoir.
Justement, pourquoi j'ai proposé ce sujet? Parce que justement, un taux ne date pas une grossesse.
Si justement,
ça, c'est quelque chose de très important.
Oui.
Le taux ne date pas. D'accord? Le taux dit juste qu'il y a ou qu'il y a eu grossesse. Je vous dis encore une fois, dans une fausse couche, le taux est positif. D'accord? Une valeur ne date pas. D'ailleurs, vous voyez, par rapport aux valeurs de référence, ils vous disent, je dis les chiffres comme ça, mais à la troisième semaine, il est positif entre 10 et 200. À la quatrième semaine, il est positif entre 200 et 5000.
C'est une question de taux aussi.
Oui, c'est-à-dire, le taux n'est pas discriminant. C'est l'évolution du taux qui nous donne une cinétique.
D'où justement, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, d'où justement peut-être l'importance de consulter selon vous lieu d'aller faire justement un test comme ça qui ne servira pas à grand-chose, si je vous ai bien compris, à part à confirmer qu'il y a grossesse.
Mais je vous dis, normalement, une femme qui ne se plaint de rien, juste qu'il y a une aménorrhée, elle peut même... Bon, si elle est pressée, si elle est vraiment inquiète, elle peut faire un test urinaire.
Oui.
Il va lui confirmer. La fiabilité des tests urinaires, avant, on nous apprenait que c'était fiable à partir d'une semaine. Maintenant, moi, je suis étonné de voir que certains tests, ils le disent dès le retard de règles, ils sont positifs. Donc, c'est assez fiable. D'accord. Maintenant, donc, elle va le faire. Mais elle peut même ne pas faire ce test et aller directement chez son gynécologue qui va faire une écho, qui va diagnostiquer le taux. Mm-hmm. Si elle veut vraiment être rassurée, elle peut faire un test sanguin ou un test urinaire. Mais je vous dis, nous, en tant que pratique médicale, on n'en a pas besoin.
Et par rapport, je vous en prie, allez-y.
J'en ai besoin quand je suspecte une grossesse anormale, quand j'ai envie de m'assurer est-ce que cette grossesse évolue bien, est-ce que c'est pas une fausse couche, et surtout quand je veux m'assurer que cette grossesse est bien localisée, est-ce que c'est pas une grossesse extra-utérine. Même autre chose, dans certaines maladies qu'on appelle les maladies trophoblastiques, c'est-à-dire après la fausse couche, ou bien dans certains cas où il y a une maladie du trophoblaste, de ce futur placenta, ce qu'on appelle la mole idatiforme, eh ben, on va avoir une persistance après la fausse couche ou après le curetage. On va avoir une persistance de bêta-ACG qui nous dit qu'il y a une anomalie. Il y a même un cancer qu'on appelle le cancer du placenta, qu'on appelle le chorio-carcinome, qu'on va surveiller justement avec les bêta-ACG. Heureusement, ça se traite juste médicalement, mais justement, dans ces cas-là, les bêta-ACG sont importantes. Mais c'est pas une valeur qui est importante, c'est la cinétique du taux, c'est-à-dire comment il évolue ce taux. Est-ce qu'il est en train de baisser?
Oui, mais pour avoir une évolution, il faut un point A et un point B, quelque part.
Tout à fait.
Il faut quand même faire le point A, on va dire.
Mais vous avez raison, mais encore une fois, je le dis, dans une grossesse normale, je ne demande pas de bêta-ACG. Mmh. Dans 90% des femmes enceintes qui viennent chez moi au début, je ne demande pas de test de grossesse. Sauf si je suspecte quelque chose.
Et comment vous faites pour suspecter ces choses-là?
Justement, le fait que... elle a des douleurs. Donc, si elle a des douleurs ou des saignements qui peuvent m'orienter vers une grossesse extra-utérine, ou bien justement elle me dit j'ai une aménorrhée et je vois rien en intra-utérin. Donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment grossesse ou pas? Alors je peux lui faire un test de grossesse même urinaire.
C'est justement sur ce point-là que je voulais qu'on insiste, docteur, avant de clore. C'est la prescription de ce dosage à ce CG. Vous disiez tout à l'heure, soit médecin généraliste, soit gynéco, c'est peut-être le gynécologue qui est... prescrire véritablement ce dosage et comment le lire et comment suivre avec la patiente, etc.
Moi, je dirais un médecin généraliste bien expérimenté, il a tout à fait c'est quelque chose de basique, il a tout à fait la latitude avec son expérience pour le poser. Mais encore une fois, je dis, les bêta-ACG, ils ne datent pas la grossesse, ils signent juste qu'il y a la grossesse et on les demande en cas de problème, pas systématiquement.
Merci. D'accord. Beaucoup, docteur.
Je vous en prie.
Merci, Hicham Benabastagi.